Non, pas du tout, pas du tout.
Il y a encore des personnes en bas ? Je demande si vous voulez bien éteindre vos portables avant le cours. On a toujours des problèmes après pour couper les disques, pour arranger. Ça fait à chaque fois un travail en plus pour ceux qui sont occupés. Merci beaucoup. Carte-moi, je vous cède. Aujourd'hui, Bézant Hachem, nous allons parler, bien entendu, de Hanouka. nous avons une halakha que les sages nous disent, c'est toujours de coller au sujet par rapport auquel nous sommes le plus proches. Idrosh michot achag bachag, c'est-à-dire s'occuper de la fête pendant la fête. Cette halakha ne s'arrête pas à ce niveau-là. Elle veut dire beaucoup de choses. Elle veut dire qu'il faut s'occuper des choses lorsque les choses sont là. Je vais un petit peu élargir. Il faut s'adresser à l'époque dans laquelle nous sommes par rapport aux ustensiles qui correspondent à cette époque. On ne peut pas traiter d'une époque si nous sommes dans une autre époque. Aujourd'hui, si je vous parlais de Soukhot, ça vous paraîtrait un petit peu mal placé. Le fait de parler de Hanouka, vous sentez que c'est correspondant à la période. Dans la période dans laquelle nous sommes, dans le monde, il faut savoir tout le temps décoder l'instant présent. Il faut toujours aller voir les hommes, les sages, qui savent être pendant, avec, dans le niveau de la génération avec laquelle ils vivent. On ne peut pas s'adresser à des gens décalés par rapport au monde, au environnant. On ne peut pas s'adresser à un sage si ce sage n'est pas de mon époque. Et c'est une halakha d'aller tout le temps voir et achofet asher yé bayamim hahem. Allez voir celui qui va pouvoir vous aider, celui qui est dans l'époque à laquelle tu vis. Et je vous pose la question, est-ce qu'on peut aller voir quelqu'un d'une autre époque? Ça veut dire quoi? Qu'il y a des hommes qui sont dans cette époque, mais qui ne résonnent pas au niveau de la génération présente dans laquelle ils se trouvent. Et il faut savoir tout le temps coller à la situation, et c'est pour ça que le temps nous a été donné comme cadeau du ciel. L'une des créations dans le monde, c'est la création du temps. Et il faut que les sages d'Israël collent au temps. Alors, puisque nous sommes juste avant Hanouka, 5768, jamais il y a eu un Hanouka comme celui qu'on va vivre cette année. C'est facile à dire. Okay, c'est la première fois qu'il apparaît. Mais Be'ezrat Hashem, il y a des grandes choses en préparation et il faut coller à la situation présente. Quel est le sens de Hanouka? La Gemara, dans le traité de Shabbat, pose la question « Maï Hanouka ?» Qu'est-ce que c'est que ce Hanouka? Pourquoi nous fêtons cette fête de Hanouka? Deux réponses. Première réponse, parce que nous avons eu une victoire contre les Grecs, les Yévanim. Deuxième réponse, parce qu'il y a eu le miracle de la fiole qui a brûlé alors qu'elle devait s'éteindre. Nous avons donc une fête qui contient deux miracles, deux raisons pour cette fête-là. Alors je vous pose une deuxième question qui est la suite de la première question. Combien de mitzvot nous avons à réaliser pendant cette fête de Hanouka? Deux. Puisque nous avons deux raisons, nous avons deux mitzvot. Quelles sont les deux mitzvot? La première qui correspond à la fiole, donc d'allumer les lumières de Hanouka. Et la deuxième, de remercier Akadosh Baruch Hu pour la victoire militaire contre les Grecs. Donc, dire le Hallel et Hoda'a, ce que nous disons à la Nissim pendant la Amida, et le Hallel d'une manière complète pendant la fête de Hanouka. Pourquoi nous avons deux mitzvot à Hanouka? Facile, on l'a dit. Il y a deux raisons. Nous avons gagné, militairement parlant, et Akadosh Baruch Hu est apparu spirituellement parlant. Autrement dit, il y a ici un double miracle. Le premier, qui s'habille dans la fiole, et le deuxième, qui va s'habiller dans la victoire humaine des soldats de cette époque, les Hashmonaïm.
Nous avons donc deux raisons de fêter Hanouka. Une raison spirituelle et une raison de libération nationale. Comme un Yom HaAtzmaout de cette époque. Je repose une question. D'après vous, lequel des deux miracles est plus important? Celui de la victoire contre les Grecs ou celui d'avoir trouvé une fiole qui a duré plus qu'elle ne devait durer? C'est pas une question rhétorique, j'attends une Les deux durent. Les Chachamim nous disent que l'essentiel de Hanouka, c'est... Je ne vais pas vous répondre tout de suite. Avant de vous répondre, on va rentrer dans les petits détails de la halakha. Et par les petits détails de la halakha, nous allons avoir la réponse qui va apparaître d'une manière naturelle. Le Hallel est l'allumage des veilleuses de Hanouka. Qui a instauré l'allumage des lumières de Hanouka? Les sages de l'époque, du deuxième temple, une fois que nous sommes rentrés dans le temple et que nous avons nettoyé ce temple de la Avodah Zara, purifié, nous avons allumé et les sages ont décidé qu'il y ait une représentation de cette fête par cet allumage. Qui a instauré le Hallel? C'est la deuxième partie. Mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu, il n'était pas là, il a instauré bien avant. Quand est-ce que mon cher Rabbeinu a instauré le Hallel? Il a dit, mon cher Rabbeinu, qu'il fallait lire le Hallel pendant les 8 jours de Hanouka. Ah, vous allez me demander, mais quel rapport, mon cher Rabbeinu, Hanouka, c'est à des centaines d'années? Quel rapport? Alors, pour cela, nous allons rentrer dans une Gemara, dans le traité de Psachim. Marquez bien les références, c'est important. À la page 117, la Gemara pose la question. Hallel ze mi amaro. Je vous lis la Gemara. Ce Hallel-là, que nous lisons de temps en temps dans l'année, qui l'a instauré? D'où il sort ce Hallel? Pourquoi nous devons lire le Hallel? Chachamim omri, Nevi'im shebenehem tiknu lahem leIsrael. Ce sont les sages, prophètes, deux époques. De quelle époque? On va voir tout de suite. De la sortie d'Égypte, qui ont instauré chez Yu Omrim Oto, qu'on dise le Hallel, quand Al-Kol Perek ve Perek ve Al-Kol Tsara ve Tsara Shelo Tavo Hallel. Dès que le peuple d'Israël passe une difficulté et qu'il arrive à s'en sortir, qu'il passe d'un élément de mort à un élément de vie, Ukshenig Alim, lorsqu'on est sauvé de cette situation, Omrim Oto Al-Geulatam, nous sommes obligés de dire le Hallel pour cette délivrance. Autrement dit, la Geoula n'est pas une, elle est un ensemble de beaucoup de Geoulot que le peuple d'Israël a connu durant toute son histoire. Et chaque fois que je sais reconnaître une mini-Geoula dans le chemin de la grande Geoula, je dois savoir remercier Al-Kadosh Baruch Hu pour ce degré de Geoula que je viens d'avoir. Cette Gemara sort de Pessah, dans Psachim. D'où ça sort? Au moment de la sortie d'Égypte, les Égyptiens sont derrière nous, la mer devant, et nous sommes obligés de traverser. Lorsque le peuple d'Israël arrive à s'en sortir de cette situation très difficile, où on a l'impression que c'est fini, et malgré tout, après ça, nous voyons que, Baruch HaShem, nous avons traversé la mer s'est coupée, le mur s'est coupé de devant nous, Le peuple d'Israël n'a pas d'obstacle, même un obstacle qui paraît insurmontable, définitif. La nature est là, c'est fini, tu es foutu. Ça n'existe pas. Une fois que nous traversons cet obstacle, tous les obstacles de notre vie, nous devons savoir remercier. Celui qui ne sait pas remercier lorsqu'un obstacle est dépassé est un ingrat. Et de là vient la halakha de dire le hallel. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que sur cette gemara, Rashi dit « Al kol tzara betzara ». Quand est-ce qu'on dit le hallel? Sur chaque détresse. « Vehaynu nes chanouka ». Dit Rashi, comme le miracle de Hanouka. Moralité, si les prophètes de l'époque, qui sont-ils? Moshe, Aharon et Myriam, décident qu'à chaque fois que nous allons traverser durant l'histoire du peuple juif des difficultés dans l'ensemble du peuple d'Israël, il voudra dire le Hallel. Ça a été instauré dès la sortie d'Égypte. Par rapport aux lumières que nous devons allumer à Hanouka, vous voyez que l'importance va directement dans le Hallel, beaucoup plus que d'allumer les lumières de Hanouka. Ce qui n'était pas aussi clair au départ. Conclusion, la fête de Hanouka, la chose la plus essentielle, c'est pas que la fiole a duré longtemps. C'est que le peuple Israël a gagné une indépendance, une victoire militaire. Ça va nous amener un petit peu plus loin. Ça veut dire que le fait de dire le Hallel, c'est une takana qui vient de bien plus loin, elle vient du début. Elle vient même dans la formation du peuple d'Israël de savoir dire le Hallel. Celui qui ne sait pas dire le Hallel, il a un problème avec cette formation de peuple. C'est dans la Gemara de Psachim, celle de Pessah, celle de la sortie d'Égypte. Autrement dit, quand tu sors et que tu commences à te former en tant que peuple, l'une des choses l'essentielle que tu dois savoir, c'est reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu te sort de situations délicates et t'amène vers la vie à chaque fois. Bechol dor vador omdim alenu lechalotenu veAkadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Depuis, nous disons le Hallel. Depuis ce Pessah. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que nous allons avoir une victoire, nous devons nous éduquer à dire le Hallel. Exemple, Pessah, Hanouka, Sukkot, Yom HaAtzmaut. Ne pas savoir remercier Akadosh Baruch Hu, il y a ici une faille. Il y a ici un problème. Et on va voir quel est le problème, pourquoi nous avons peur. Parfois, nous avons un doute s'il faut dire le Hallel et ne pas dire le Hallel. Bien entendu, j'ai mis Yom HaAtzmaut exprès. Ça veut dire que le Hallel est beaucoup plus important que l'allumage des lumières, parce que nous avons ici des prophètes. Et les grands prophètes, Moshe, Aaron et Myriam, face aux Chachamim, qui ont aussi leur importance, mais il n'y a aucune commune mesure. Hanouka est donc formé de deux niveaux. Un niveau militaire, un miracle habillé dans la nature, et un niveau spirituel, un miracle hors nature. La Gemara dans le traité de Shabbat, à la page 21, pose la question. Maï Hanouka, qu'est-ce que c'est que ce Hanouka? Pourquoi nous fêtons Hanouka? Et elle répond tout de suite. D'Etanou Rabbanan, les sages nous ont enseigné, nous racontent l'histoire. Bekafhe Bekislev, Yomei de Hanouka Tmania Inun. Le 25 Kislev, les jours de Hanouka sont au nombre de 8. Dela le Mispel Behon. On n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres. Et ou des lalit anot, on n'a pas le droit de jeûner. pendant ces jours-là. Chekshenichnesu Yevanim la Echal, et la Gemara commence à nous raconter un tout petit peu l'histoire. Vous allez voir que ça devient intéressant. Lorsque les Grecs sont rentrés dans le sanctuaire, Echal en valeur numérique, c'est le nom de Dieu que nous disons Adon. C'est la même valeur numérique. C'est comme si les Grecs, en rentrant dans le Echal, dans le sanctuaire, traduction française, ont en réalité profané le Adon, le maître qui se réalise en ce monde. C'est-à-dire la manifestation divine a été salie. Et ils ont rendu impures toutes les huiles. Sheba Echal. Ou Shegavra Malchut Bet Hashmonai. Et quand la royauté de la maison de Hashmonai, ce qui eux aussi nous rappelle le chiffre 8, Hashmonai, ceux qui sont au degré du 8, ceux qui ont compris le secret du 8, Venitzrum ont gagné, donc sont restés éternels. Nitzachon, c'est une victoire. Netzach, c'est l'éternité. Bakou velo matzou el apach echad shel shemen shehaya munach bechotamo shel kohen gadol. Ils ont cherché pour rallumer, parce que la lumière représente la Shrina dans le peuple d'Israël. Et ils n'ont trouvé qu'une seule fiole qui était encore scellée avec le sceau du grand prêtre. Il avait de quoi allumer une seule journée. Il y a eu un miracle, donc ici hors nature, incompréhensible, et cette fiole a duré 8 jours. Les Shana Acheret, écoutez bien maintenant, et là il y a une clé. Les Shana Acheret, l'année suivante, pas la même année. La même année, on n'a pas fêté Hanouka tel que nous le fêtons. Les Shana Acheret, une autre année. Qu'est-ce qui s'est passé? Kevaum ve'asum, ils ont fixé et ils ont fait cette fête-là. Yami Tovi, des jours bons, Yom Tov. Et alors, qu'est-ce qu'il faudra faire pendant cette fête de Hanouka? Il faut allumer les veilleuses. Pas du tout, la Gemara ne parle même pas de la Hanoukia. Behalel Vehoda. Moralité, nous ne trouvons pas dans la Gemara une trace de l'allumage de notre fameuse Hanoukia d'aujourd'hui. Les sages ont fixé pour l'année d'après, pour les années d'après, pas du tout d'allumer des bougies. C'était un Yom Tov, mais comment il les représentait ce Yom Tov? En lisant le Hallel. D'où l'importance essentielle de la lecture du Hallel, qui est en réalité la clé de cette fête de Hanouka. Hallel Behoda. Remerciement à Kadosh Baruch Hu. Donc nous voyons ici une preuve de plus que ce n'est pas l'allumage qui est le plus important, mais la victoire militaire sur laquelle il faut dire le Hallel, puisque le Hallel a été fixé pour une victoire lorsqu'on passe d'un état où on risque la vie à un état de vie, où on a été sauvé de nos ennemis. Donc en réalité, la takana essentielle, primordiale, okay, au début, comment était Hanouka? Ça ne comportait pas l'allumage de notre Hanoukia. Il fallait dire le Hallel, un point, c'est tout. Alors, qui sait? Quand est-ce que les Chachamim nous ont apporté cet élément de plus d'allumer la Hanoukia, puisque nous avons aujourd'hui quelqu'un à qui tu dis Hanouka sans Hanoukia, il te dit, mais alors, il n'y a pas de Hanouka. C'est l'inverse aujourd'hui. Il y a des gens qui oublient le Hallel. Mais la Hanoukia, on ne peut pas l'oublier. Alors, à quelle époque, quand est-ce que les choses ont changé? Et la Gemara, elle pose la question un tout petit peu plus loin. Nous étions dans la page 21 de Shabbat. On saute 2 pages. À la page 23, la Gemara dit la chose suivante. Il se passe quelque chose dans cette fête qu'on ne comprend pas. Vous allumez des veilleuses, des lumières, de l'huile, et vous dites une bénédiction. Alors on va prendre que celle de l'allumage, parce que le premier soir, vous vous rappelez, il y en a combien ?
Trois.
Et après, deux. L'adlik merhanouka, shasanissim lavotenu, shechianu. D'accord ? Et les autres soirs, l'adlik mer, shasanissim. Répétons ce que nous disons pendant cette bénédiction. Baruch ata Hashem. Je vais traduire avec un français simple qui m'énerve beaucoup, mais il n'y a pas de soi. Béni sois-tu l'Éternel. D'accord. Peu importe. Béni sois-tu l'Éternel. Eloheinu melech haolam, maître du monde, Asher ki deshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifié par ses commandements, vetzivan, il nous a ordonné le'adlik ner Hanouka. Attends. Mais où est-ce que Dieu m'a ordonné d'allumer des lumières de Hanouka? Est-ce que dans la Torah, il y a une fois marqué cette fête? Est-ce que Dieu a donné un ordre? Allumer les fêtes, les lumières? Où on a vu ça? On dit une bracha qu'on a inventée de toutes pièces? Comment on peut dire, béni sois-tu l'Éternel, tu nous as ordonné d'allumer? Ne vous inquiétez pas, si on le dit, c'est qu'il y a une raison. Mais quand même, il faut se poser la question. D'où ça sort? Regardez comment dit la Gemara. Maï, d'où ça sort? Mevarech, Asher ki deshanu be mitzvotav de tzivanu leadlikner shel Chanouka pour les Ashkenazim ou Chanouka pour les Sfaradim. Vous savez que les Sfaradim ne disent pas shel Chanouka. Leadlikner Chanouka. Parce que d'après la Kabbalah, leadlikner Chanouka, ce sont les initiales du mot Nahal, qui veut dire le fleuve qui coule de source. Et donc les Mekoubalim pensent à ces trois lettres, Nun, Chet, Lamet, les Adlik, Ner, Hanouka. D'après la Kabbalah, il y a un bénéfice supérieur à penser à ces trois lettres pendant que nous disons cette bénédiction. Peu importe, je reviens à la Gemara. Vechan Tzivanu, pose les Chachamim dans la Gemara. Rega. Où est-ce qu'il nous a ordonné? Tu lui dis, Betsivanu. Il m'a ordonné, Vechan Tzivanu. Alors, il y a deux rabbanim qui vont répondre. Rav Avi, Avia, Amar, Milot Asur. Vous savez d'où on apprend ça? Lot Asur, Mikol Asher, Yorucha, Yamin Usmon. Tu ne bougeras pas de tout ce que les sages te diront. Et ça, c'est marqué dans la Torah. Ça veut dire que Dieu nous a dit dans la Torah que dans l'avenir, il y aura des sages qui vont te dire des choses et tu ne devras pas bouger ni à droite ni à gauche de ce qu'ils vont te dire. Donc si les sages m'ont dit un jour qu'il faut allumer les lumières de Hanouka, c'est comme si Akadosh Baruch Hu lui-même l'avait ordonné, puisque les sages l'ont compris. Première raison. Le deuxième sage de cette même Gemara dit Rav Nechemia Amar, je ne suis pas d'accord avec toi, ce n'est pas pour cette raison. Peut-être que tu as raison, mais moi je pense que ça vient de She'al Avicha Veyagetra Zekenecha Veyom Rula. Tu n'as qu'à demander à ton père et à ton grand-père, et c'est tout. Si tu as vu ton grand-père allumer une veilleuse de Chanouka pendant Chanouka, tu te tais et tu allumes. Les coups d'œil. Ton grand-père, il savait ce qu'il faisait. C'est-à-dire, nous avons ici deux raisons pour lesquelles il faut allumer les lumières de Hanouka. Tu ne bougeras pas de ce que les sages disent, ou alors tu suis de toute façon ce qui se fait dans le peuple d'Israël depuis la nuit des temps. D'ailleurs, le Rambam, dans son traité dans Yad HaChazaka, dans les Hilchot Brachot, nous dit Asher ki deshanu be mitzvotav ve tzivanu. Par exemple, Netilat Yadai ou Brachot. La même chose, la même question se pose. D'où? Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire quelque chose. Shezo mitzvat chachamim shenitztavenu min haTorah lishmoa mehem. Dit le Rambam, nous avons une halakha dans la Torah ça c'est Dieu qui le dit, d'écouter les Chachamim. Sheneemar al pi a Torah asher yorucha. Tu dois écouter la Torah qu'ils t'enseigneront. Donc, Akadosh Baruch Hu a pris sa Torah divine, l'a fait descendre au niveau rabbinique, et les rabbinim vont te donner la direction des choses, et c'est comme si Akadosh Baruch Hu avait parlé. Et donc, de là, il est très simple de dire Asher ki deshalo be mitzvota. Pourquoi? Parce que les Chachamim un jour m'ont instauré d'allumer mes veillots de Hanouka, j'ai aucun problème, c'est Dieu lui-même qui l'a ordonné à travers les sages. Donc nous avons ici deux raisons. Nous ne sommes pas encore entrés dans le cours. Nous sommes encore dans le degré hilchati du cours pour poser les choses. Tout doucement, nous allons grimper, avec votre permission, Ezra Dachem, dans le degré un tout petit peu plus subtil. Pour l'instant, nous faisons de la Gemara. Donc nous avons ici deux shitot, deux manières de voir les choses. La première nous dit que les sages nous ont ordonné d'allumer, et la deuxième nous dit que ce sont nos pères qui nous conduisent et on avance. Vous savez que certaines personnes ont des élans. Par exemple, vous voyez quelque chose qui s'est passé dans le peuple d'Israël et vous êtes ému. Vous pouvez vous créer un allumage de veilleuse. Les femmes font ça d'une manière assez courante. Dès qu'il se passe quelque chose, elles allument une veilleuse. Et qui c'est qui leur a dit de faire ça? Personne, on n'a pas besoin. Elles sentent, ça suffit. Il y a des choses dans lesquelles tu sens et c'est bon. Tu peux sentir que tu dois allumer une veilleuse maintenant pour remercier Akadosh Baruch Hu pour quelque chose. Il s'est passé quelque chose, il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour cette chose. Je viens d'appeler ma femme, un quart d'heure avant le cours, en lui disant « allume une veilleuse parce qu'il vient de se passer quelque chose avec moi. » Il y a une demi-heure. Et je lui dis « allume une veilleuse, je sens qu'il faut allumer une veilleuse. » Pas de problème, je vais allumer une veilleuse. Tu dis merci à Kadosh Baruch Hu. Qui c'est qui m'a ordonné ça? Je ressens le besoin à l'intérieur de moi de remercier Kadosh Baruch Hu pour quelque chose. Je peux le faire avec un acte d'allumage. Ça veut dire que, et là je résume, on va un petit peu s'arrêter. L'allumage des lumières de Hanouka a commencé comme une coutume, comme un minhag, comme un ressenti des hommes de remercier l'allumage qu'il y a eu au Beit HaMikdash. Il n'y avait aucune raison initiale, même la Gemara n'en parle pas. Et d'ailleurs, les Acharonim, les décisionnaires nouveaux par rapport aux Rishonim, apprennent de là qu'il y a une machloket s'il faut faire une bénédiction sur un minhad ou pas. Peu importe, ça ce sont des inyanim de Gemara, on ne va pas rentrer. Et maintenant on rentre un tout petit peu dans l'épaisseur du cours. Il y a deux degrés dans cette fête de Hanouka et c'est ça son grand secret. Si je vous ai paru négliger le côté allumage des veilleuses, c'est faux. Je vais maintenant me rattraper. Le côté victoire militaire est important, mais le côté allumage des lumières est important. Et on va voir un tout petit peu qu'il y a ici un mariage entre deux degrés durant cette fête. Le premier, je l'ai déjà dit, est un degré qui est au-delà de la nature, qui ne s'habille pas dans la nature. Ce n'est pas possible qu'une huile brûle plus longtemps qu'elle ne peut brûler. C'est un combustible et ça ne peut pas marcher. Donc ici, il y a ici un miracle clair, hors nature, divin. Il y a un deuxième miracle, et celui-ci est beaucoup plus difficile à appeler, à être appelé miracle. C'est celui de la victoire militaire. C'est-à-dire quand Tsahal réussit une action à Khan Younes ou à Tartampion les doigts de pied, chez Imar Shemin de Zichra, on a du mal à voir que Dieu a participé à ça. Qu'est-ce qu'on a facilement dans la bouche? Baruch HaShem, on dit, mais sans penser Baruch HaShem, pas tous. Ils ont de bons armes, il y avait un bon radar, nous avons une infrastructure militaire qui est assez bonne, et Baruch HaShem, nous sommes au niveau. C'est-à-dire qu'il est très difficile à décoder le miracle lorsqu'il s'habille dans une action humaine, qui peut être expliquée avec des raisons très logiques. Vous voyez donc un mariage ici entre un miracle vrai et un miracle déguisé. Un miracle clair et un miracle caché. Et cette fête de Hanouka fait le lien de ces deux degrés. Ça, c'est le plus grand secret de cette fête. Pourquoi ? Nous avons ici une éducation pour notre vie. Hanouka vient du mot chinouk. C'est une éducation dans ta vie. Pour avancer, je vais reculer et je vais prendre les parashiot de la Torah que nous lisons aujourd'hui, maintenant. Nous avons lu hier la parasha de Vayeshev et la semaine prochaine la parasha de Mikès. Ce sont toujours les deux parashiot qui sont collées à la fête de Hanouka. Celle qui précède Hanouka, c'est Vayeshev, et celle qui est dans Hanouka, c'est Mikès, tout le temps. La différence, elle est toute simple. Celle qui est dans Hanouka, elle va dévoiler quelque chose de l'ordre de Hanouka. Et celle qui est avant Hanouka, hier, c'est celle qui contient tout Hanouka, mais dans une graine. On n'arrive pas encore à voir. Sauf ceux qui étudient pendant le Shabbat qui précède Hanouka, en expliquant qu'en réalité, Hanouka est déjà caché dans cette parchia. Qui est l'acteur principal? Yosef Hatzadik. Nous y sommes. Très intéressant, c'est que les sages, quand ils parlent de Hanouka, dans la manière d'allumer les lumières, quel est le terme qui revient? Mossif Verolev. Qui nous rappelle, sans aucun problème, Yosef, qui veut dire celui qui rajoutera. Moralité, Yosef est collé au texte même que les sages ont choisi pour définir Hanouka. Beth Hillel nous dit que la fête de Hanouka, c'est de rajouter. Et quel est le terme? On aurait pu dire Magbir. Non, Mossif. Référence à Yosef Hatzadi. Hanouka et Yosef, une seule et même chose. Et là, on va développer. Hanouka, c'est une fête qui va dévoiler le potentiel de cet homme qui s'appelle Yosef. Alors, quel est ce potentiel? Quel est cet homme Yosef? C'est quoi? Comment Hanouka et Yosef sont collés? Où est-ce qu'on peut voir Hanouka dans Yosef? Ou Yosef dans Hanouka? Rashi commence la paracha d'hier, Vayeshev, avec un midrash incroyable qui n'a apparemment aucun rapport avec le premier verset. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv. Elle est toldot Yaakov Yosef. Sympathique. Rashi nous ramène un midrash de très loin. C'est-à-dire de très loin, apparemment, qui n'a aucun rapport avec le verset. Et il commence à nous dire, tu sais, ça ressemble à celui qui vendait du lin, qui ramène des chameaux remplis de lin, et ce lin doit rentrer dans une pièce, et il y a quelqu'un qui vend du charbon, et il se pose la question, comment tout ce lin va rentrer dans cette pièce? Il y a un sage qui passe par là et qui lui dit, tu sais, c'est facile, toi tu vends du charbon avec une étincelle de chez toi, tu brûles tout ce lin, et c'est fini. Et la conclusion du Midrash, de la même manière, Yaakov avait peur parce qu'il a vu la liste de tous les champions de Esav qui sont énumérés à la fin de la paracha d'avant, à Loufé Esav, et la liste. Alors Yaakov, il commence à avoir la trouille, et le sage passe en disant à Yaakov, comme dans le Midrash, tu sais, c'est rien, une étincelle sort de toi et les brûle tous. Et qui c'est cette étincelle? Yosef. Et Sab, c'est la paille. Et lui, c'est l'étincelle. Et qui est le feu?
Yaakov.
Et comment dit le Midrash? Esh mi bet Yosef. Un feu va sortir de la maison de Yaakov. Un feu va sortir de la maison de Yaakov. Ou le hava mi bet Yosef. Et une étincelle qui va être une flamme qui va sortir de Yosef. Nitzot. Ok? Vechila, et il va tout brûler. Daya bet Esav le cache. Et la maison de Esav sera comme de la paille où tout va brûler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov ne suffit pas. Yaakov, c'est un feu. Et là, nous avons affaire à une étincelle qui sort du feu. Elle est capable de sortir du feu. Autrement dit, nous avons ici affaire à un enfant qui n'est pas facile à tenir. C'est un enfant qui n'est pas facile à rester dans le contexte familial. Il faut tout le temps qu'il sorte. C'est incroyable ce Yosef. Dans la paracha d'hier, vous pouvez compter combien de fois il y a marqué « Vayetzé Akhoutsa ». Incroyable. Il est tout le temps en train de sortir. Il va loin d'ailleurs quand il sort. Il va tomber très bas quand il sort. Mais il sort. Et même du très bas, il sort. Il s'en sort. Qui c'est ce Yosef? Yosef est appelé Lehava. Or, dans le mot Lehava, qui nous fait référence à Hanouka, n'oubliez pas, la flamme. Qui nous entendons? Hevel. Ce sont les mêmes lettres. Hevel. Caïn et Hevel. Caïn et Hevel. Abel en français. Caïn et Hevel. Hevel. Lehava. Lahav. Qui veut dire une flamme. Hevel était une flamme que Caïn, qui veut dire une branche en hébreu, Kané. Combien de Kanim à la menorah? Shiva Kanim au Bet Amigdash et Shmona Kanim dans notre Hanoukia. Kanim. Caïn, Lehava, Hevel. Notre Hanoukia, c'est le mariage entre Caïn et Hevel. Seulement, nous avons une difficulté extraordinaire à faire le mariage des deux. À chaque fois, il y a une tendance, fâcheuse tendance, d'éteindre le feu. Caïn tue Hevel. Les branches ne comprennent pas qu'elles sont là pour aider à la flamme à se réaliser. Ce qui veut dire que la branche, au lieu de servir pour la flamme, elle devient une existence à part entière. Donc le canet devient canyon. C'est un quignan. Et qu'est-ce qu'il fait avec le Hevel? Il le tue et il l'enterre, il le met dans un trou. Ça vous rappelle quelque chose? Yosef et les frères. Nous avons les mêmes acteurs qui reviennent en changeant les déguisements. Les frères sont comme Caïn et Yosef, c'est comme le Hevel. Ils ne peuvent pas supporter ou comprendre comment on peut avoir un rapport avec un homme qui ne paraît pas ce qu'il est. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre dans un trou. Un peu plus, on va le vendre au Ishmaël. Où est-ce qu'on a vendu Yosef? Dans quelle ville? Shrev. Bizarre. Où est-ce que Dina a été violée? Shrev. Où est-ce que le royaume d'Israël a été séparé en deux? Shrev. Où est-ce qu'aujourd'hui nous avons négligé Yosef? Shrev. La même chose. J'ai toujours dit dans mes cours tant que nous ne récupérons pas Yosef Hashrem, on pourra parler et diviser Yerushalayim. Ça va ensemble. Yerushalayim, c'est Yehuda. Et Yosef, c'est Shrem. Si on néglige Shrem, on ne peut pas parler de Yerushalayim, elle ne peut pas être entière. Sans Yosef, sans Mashiach ben Yosef, il n'y a pas de Mashiach ben David, Yehuda. Et d'ailleurs, toute cette histoire de guerre fraternelle, quand est-ce qu'elle se termine? Dans la paracha de Vaïgash, quand Yehuda reconnaît l'existence de Yosef. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Vaïgash est là, Yehuda. C'est Yehuda qui fait le geste de s'approcher de son frère, qu'il a rejeté, qu'on a jeté dans un trou, qu'on a oublié, qu'on a mis dans les oubliettes, qu'on a enterré. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Une expression extraordinaire en hébreu, qui en français ne veut plus rien dire. En français, c'est une formule de politesse. Qu'à cela le tienne, mon cher maître. Baratin, tout ce que vous avez dans vos livres. En français. Dans la Genèse. On se demande quel animal c'est la Genèse. Un peu moins dangereuse que le Lévitique. Alors le Deutéronome, c'est... Il mange tout le monde. Je ne connais pas tout ça. Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Il faut parler dans le langage de la Torah. Nous ne sommes pas des chrétiens. Nous avons ici le Gilgoul de Yosef de Hevel. Et il faut récupérer. Qu'est-ce que dit Yehuda à son frère quand l'histoire se termine et qu'elle se termine bien? Il lui dit deux mots en hébreu. Bi Adoni. Traduction littérale. Tu es en moi. J'ai compris. Yehuda, Yerushalayim, dit à Yosef, Shrem, tu es en moi. Si je ne reconnais pas que tu es en moi, que c'est toi mon âme, je ne peux pas être entier. Ce qui fait dire au Arizal, kabbaliste, qui nous a laissé les plus grandes lumières, il y a 500 ans, que Yosef, par rapport aux frères, est masculin, alors que tous les frères sont féminins. Et qui est le chef de tous les frères, à part Yosef?
Yehuda.
Moralité, Yehuda, c'est une femme par rapport à Yosef qui est un homme. Et qu'est-ce que dit la femme Yehuda à l'homme Yosef? Bi Adoni, tu es en moi. Yehuda, le royaume de Yehuda, reconnaît que sans la flamme intérieure de Yosef, Yehuda ne peut pas vivre. Et d'ailleurs, quand Yosef disparaît, tout le monde est en train de disparaître. Tout le monde est en train de se détacher. Il n'y a plus de col. L'élément de col, l'élément du tout, c'est Yosef. Car il est aussi Yosef. Il rassemble. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que Yehuda descend de ses frères, qu'il va là-bas, et que Yaakov n'a même plus de roi HaKodesh, il n'a même plus de prophétie. Yaakov devient un homme saint. Pendant 22 ans, il ne reçoit même pas une conversation avec Dieu. Il ne prie pas Yaakov pendant 22 ans. Il n'est pas en deuil. Il est dans un deuil qui ne se termine pas, ce n'est pas un vrai deuil. Et c'est pour ça qu'il comprend que Yosef n'est pas mort. Parce que l'une des spécificités chez l'Onedar, l'Oralen ou l'Oralechem, du deuil, c'est que le deuil passe au fur et à mesure que le temps passe. Alors que là, Yaakov souffre de la même manière pendant 22 ans. Et qu'est-ce qu'il est écrit quand il y a Yosef réapparaît? Vatechi ruach Yaakov. Le souffle de Yaakov est revenu. Pourquoi? Yosef est revenu, tout simplement. On comprend ici qu'on n'a plus le droit de tuer Yosef. Il faut comprendre maintenant qu'en réalité, Yosef, c'est la flamme de Hanouka. Il y a ici une leçon très importante. Le peuple d'Israël, d'une manière naturelle, a peur de ce lien. Depuis la nuit des temps, on a toujours peur de ce lien. On est ou branche ou flamme. On n'arrive pas à concilier les deux. Ceux qui rentrent dans les yeshivot ont peur de la vie. Et ceux qui sont dans la vie ont peur des yeshivot. Grave erreur. Une Torah qui n'a pas d'aboutissement dans le monde matériel n'est pas une vraie Torah de vie. Si vous voulez construire le messianisme d'Israël, construisez des maisons en Israël et arrangez vos jardins. Ça va ensemble. C'est pas de baratin. Le judaïsme, c'est pas de l'esprit. C'est de l'esprit qui se manifeste dans de la matière. Si je ne suis pas capable d'arranger mon jardin, après la Shemitah, et de ne pas le laisser mourir pendant la Shemitah, je peux considérer que je suis un homme d'Israël. Mais si pour moi le monde de la matière ne veut rien dire, c'est pas important tout ça. C'est pas important comment je m'habille. C'est pas important à quoi ressemble ma maison. C'est pas grave si j'ai des taches sur ces vêtements. C'est pas grave si mes murs sont pourris. C'est pas du judaïsme. Le judaïsme doit coller les deux degrés. Yosef, c'est un homme dont la Torah dit qu'il était beau. Pourquoi? Parce que c'est important d'avoir cette qualité aussi de beauté dans ce que tu fais. Et pas seulement faire. Quand tu achètes un loulav, essaye qu'il soit beau. C'est pas la peine de faire les choses si tu ne sais pas les embellir. C'est pas qu'elles ne sont pas bonnes, mais c'est dommage, tu perds quelque chose. On appelle ça Hidour Mitzvah. Or, Yosef, c'est le Hidour. Je ne peux pas rentrer dans certains degrés de Kabbalah, mais peut-être pour certains, après Shvirat HaKelim, le roi qui vient pour corriger s'appelle Hadar. Et c'est le huitième, correspondant aux 8 degrés, donc à Yosef. Je ferme la parenthèse. Nous avons donc peur d'une manière naturelle de faire le lien. Moraï de Rabotaï, le retour en Eretz Israël, c'est le lien entre les 2 degrés. Nous sommes venus ici pour comprendre qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas un judaïsme d'esprit, mais un judaïsme d'esprit qui s'habille dans la matière. C'est pour ça que Hanouka, c'est la plus grande fête d'Eretz Israël. C'est la dernière fête de l'exil. On a du mal à ne pas tuer Hevel ou à ne pas tuer Caïn. Quand on est dans l'esprit, on ne supporte plus le corps. Quand on est dans le corps, on ne supporte plus l'esprit. Ça ne marche pas. C'est dommage que l'emblème de l'État d'Israël, c'est les branches. Il lui manque juste les flammes. Il faudrait aller à la Knesset et proposer d'allumer les flammes de la menorah. Je rigole pas. Ça serait peut-être un chidouche, mais il faut le faire. Il faut faire, il faut oser. Peut-être les femmes. Pourquoi il n'y a pas de flamme? Parce que le kinyan a pris une importance qui a un petit peu tué le Hevel, encore une fois. C'est vrai que nous avions une période où il fallait construire le corps national. Maintenant, nous sommes dans la période où il faut aussi amener les esprits, sans négliger le corps. Et donc nous sommes ici dans cette situation de Yosef et ses frères, et regardez comme c'est collé à Hanouka. La branche, les branches et la flamme. Et c'est pour ça qu'on l'envoie en Égypte. C'est pire. Ça veut dire notre flamme, nous l'avons donnée à qui? À nos ennemis. Alors il faut récupérer notre âme. Il faut récupérer notre flamme. Il faut aller en Égypte chercher Yosef. C'est ce que font les enfants d'Israël. C'est pour ça qu'ils descendent en exil, pour aller récupérer Yosef. On l'a récupéré? Oui, on est revenu en Eretz Israël. Nous sommes aujourd'hui dans la période dans laquelle je vous parle, dans la charnière entre ce fameux Yehuda avec ses frères et ce fameux Yosef. C'est maintenant. Chacun de nous a une responsabilité de savoir comment récupérer ce Yosef. Et Yosef, il a une qualité. Il sait faire les deux, comme Hanouka. Il a une apparence élégante. Il a même un vêtement rempli de rayures. C'est d'ailleurs de là que viennent les rayures des prisonniers. Parce qu'on l'a mis en prison. Coutonnette passive. Mais en réalité, il y a un grand secret dans ce passif. Pourquoi il a une tunique rayée? C'est pas un homme de la mafia avec un costard italien. À rayures. Tout simplement parce qu'il est celui qui est capable d'avoir toutes les couleurs, toutes les tendances de couleurs. Il a une rayure de chaque couleur. C'est quelqu'un qui sait être Israël et avoir un lien, un pont avec les nations du monde. Et ça aussi, nous avons une grande erreur. Demandez à un religieux classique. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les nations? On n'en a rien à faire, nous, des nations du monde. Israël, c'est tout. C'est une faute très grave. Akadosh Baruch Hu nous a éclairés et nous a choisis pour être un éclairage des nations. Ça veut dire que si je n'ai pas de trait d'union avec les nations du monde, je ne sers à rien en étant Israël. Je dois éclairer le monde. Qui est capable de faire ça? Yosef. Yosef sait parler le langage des autres, mais il reste tzadik, Israël. Il sait faire le lien entre la Kedusha et le monde extérieur. Il sait faire allumer le monde du noir. Quand est-ce qu'on allume la menorah de Hanouka? La nuit. Et où est-ce qu'il faut l'allumer? Dehors. Vayetzé Achutza. Nous avons Yosef devant nous. Pirsum Anes. Et à quel niveau il faut l'allumer cette Hanoukia? Au niveau où tout le monde a peur, justement. Disons-le, au niveau de la Brit Mila. C'est là-bas où on doit poser la menorah. Le vrai niveau de hauteur de la menorah, c'est au niveau de la Brit. C'est à 7 poignées à partir du sol. Sur un tabouret. Et c'est là sa vraie hauteur. Pourquoi? Parce que nous devons éclairer la partie basse de notre corps, pas la partie haute. La partie haute est déjà éclairée. Elle est déjà remplie d'âme. Ce sont nos jambes qui nous manquent. Efo Araglaï. Celui qui n'a pas de jambes, celui qui n'a pas de matière, son esprit ne sert à rien. Moralité, nous avons deux miracles à Hanouka. Une fiole, lumière, et une arme. Gagner la guerre, sortir, se battre. Est-ce que tu es capable d'être les deux? Est-ce que tu es capable de sortir te battre comme un militaire d'Israël et en même temps être un Bahou Yeshiva? Ça, c'est un homme d'Israël. Ça, c'est la fête de Hanouka. Et c'est pour ça que c'est la fête de la fin des temps. Parce que la fin des temps va ressembler à ce que nous devons être. Pourquoi Hanouka va rester alors que toutes les autres fêtes disparaissent? Hanouka est pourri. C'est la même chose. Justement parce que c'est le modèle qu'on doit avoir. Être un soldat d'Israël et être un Talmid Chacham en même temps. À qui ça ressemble? À Yaakov. La fameuse échelle que nous avons vue la semaine dernière. C'est quoi? C'est exactement ça. Vous croyez que Yaakov rêve d'une échelle? C'est pour les enfants, ça. L'échelle de Yaakov, c'est lui-même. Malaché Elohim Olive et Yordim Bo. En lui. Qu'est-ce que ça veut dire que les anges montent et descendent sur l'échelle de Jacob? Très sympathique, c'est une belle toile de Chagall. Si ça reste au niveau de l'échelle, je n'ai rien compris. Les sages nous disent quelque chose d'extraordinaire. Les anges montaient, voyaient l'apparence de Yaakov en haut. Ils redescendaient, ils voyaient la même apparence en bas. Ça vous dit quelque chose? C'est exactement ce qu'on vient de dire. Et le toldot Yaakov, Yosef. Je traduis. Ce qui est en haut veut dire ce qui est dedans. Ce qui est en bas veut dire ce qui est dehors. quand les anges voyaient Yaakov d'en haut, donc du dedans, et qu'ils le voyaient aussi dans le dehors, ils se disaient, c'est pas possible. Et l'homme qui est dedans ne peut pas être dehors. Et l'homme qui est dehors ne peut pas être dedans. Tu peux pas être un tzaddik en étant un guerrier. Si, c'est ça le chidouche d'Israël. Et c'est pour ça que nous faisons des erreurs énormes aujourd'hui dans notre guerre contre nos ennemis. Parce que nous nous battons au niveau d'en bas, simplement. Nous ne savons pas que nous avons affaire à deux guerres. Une guerre au niveau de l'esprit et une guerre au niveau de la matière. Tant que nous ne récupérerons pas notre esprit, notre lehava, notre flamme, notre yosef, on aura du mal même au niveau physique. Et c'est pour ça que Israël a acquis son nom d'Israël. Pourquoi Yaakov est devenu Israël? Qu'est-ce que le texte dit? Kisarita im Elohim veim Anashim. Parce que tu as su te mesurer à des esprits, mais en même temps à des corps. Ça, c'est Israël. Ça, c'est le degré d'Israël. La Torah nous dit quelque chose. On s'approche de la fin du cours. Et shabbatotai tishmor. Vous allez observer mes shabbatot. Ou migdashi kirao. Et vous allez craindre mon sanctuaire, mon Beth Amikdash. Je vous pose la question en hébreu, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire Et Shabbatotai Tishmoru? Akadosh Baruch Hu, il a combien de Shabbat? Un. Alors on aurait dû dire en hébreu Et Shabbati Tishmoru Vet Mikdashi Tirao. Observez mon Shabbat et vous aurez le temple. Vous connaissez, vous, plusieurs Shabbats? Oui. Tout le monde dans lequel nous sommes est rempli de Shabbat. Shabbat, c'est 7. 7, c'est le monde de la matière. Ce texte vient nous dire, et Shabbatotai tishmoru, si vous savez préparer le monde de la matière qui, lui, est basé sur le chiffre 7. La Shemitah, le Yovel, les 6 jours de la semaine plus le Shabbat, tout ça, c'est la matière, c'est le temps. D'ailleurs, Zaken, en hébreu, c'est quoi? Zekenim. Zain, Kanim, 7 branches. Zekenim. Ça veut dire que la branche, c'est quel chiffre? 7. Et la flamme, c'est quel chiffre? 8. Et si je le 7 et le 8, là, j'ai compris le secret. Nous disent les Chachamim en réalité dans la Torah. Pourquoi Et Shabbatotai Tishmeru? Si vous savez observer tous les 7 de ce monde, c'est-à-dire l'action. J'étais la semaine dernière en Khoutzal, à Mabdil Belkodesh Lechoul. Et j'ai fait une exposition de peinture. Et dans mes peintures, j'ai l'habitude de dessiner des musiciens. Alors les gens me posent la question, pourquoi tu dessines des musiciens? Ils se disent, peut-être qu'il y a musicien aussi. C'est vrai, il y a musicien aussi. Mais c'est pas pour ça. Je leur explique que dans la musique, il y a 7 notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et après on recommence, sur une autre octave. Jouer d'un instrument, c'est jouer du 7. C'est-à-dire, je joue dans le monde de la matière. Donc, avec des mots simples, j'agis. Jouer d'un instrument, c'est faire entendre sa mélodie dans le monde de la matière. Mais pour atteindre quoi? Le 8. Le degré le plus élevé, l'âme du 7. Le Shabbat, vous croyez que c'est quoi? C'est le 7 ou le 8? C'est le 8 qui se dévoile dans le 7e. C'est pour ça que Shabbat a un nom, mais il a aussi un chiffre. On l'appelle Yom HaShvi'i. Et dès qu'on dit Yom HaShvi'i, qu'est-ce qu'on dit? Shabbat. C'est-à-dire, je dois découvrir le Shabbat du Yom HaShvi'i. Je dois découvrir le 8 dans le monde du 7. Et lorsque j'arrive à faire ça, qu'est-ce que je dévoile? Le Mikdash, Kodesh. Maintenant, on comprend le passou. Et Tchabetotai Tishmoru, quand vous allez observer mes sept, ou Mikdashi Kirao, vous allez voir mon but. Vous allez dévoiler le 8. Alors le 8 au niveau de l'espace, c'est où? C'est le Betamikdash. Kodesh. Le 8 dans le temps, c'est où? Le Shabbat. Et le 8 chez l'homme, c'est le peuple d'Israël. Nous sommes le 8, et c'est pour ça que nous sommes les Hashmonaïm, ceux du chiffre 8, ceux du Shemen. Shemen, c'est les mêmes lettres que Shmoné, les mêmes lettres que Neshama. Et c'est pour ça que nous étudions la Mishnah. Et c'est pour ça que la Brit Mila est au 8e jour. Et c'est pour ça que Hanouka est tellement important, parce qu'il nous fait le lien de tous ces 7 avec le 8. De tous les frères avec Yosef. De tout le monde de la matière avec le monde de l'esprit. Si je vous dis, Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Hamavdil Ben Kodesh Lechol, comment vous traduisez ça? Celui qui sépare le profane du sacré. C'est complètement faux. Il y a marqué Hamavdil et il n'y a pas marqué Hamafrid. Voici notre erreur. C'est qu'on ne fait pas la différenciation, on fait des séparations. Nous n'avons pas le droit de séparer. Jamais il y a marqué Hamafrid. Il y a marqué Hamavdil. Je dois savoir différencier mais ne pas séparer. Si je sépare, je suis mort. Dans la paracha de Miketz, Paro va rêver de 7 vaches. Maigres, qui mangent, qui avalent 7 vaches grosses. Grosses vaches. Grasses. Shmenot. Shmenot. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le 7 mange le 8. Que Caïn tue Hevel une fois de plus dans un rêve de Pharaon. Et les Khartoumim, les fameux sorciers de Pharaon, qui savent décoder les rêves. Ne croyez pas que ce sont des ânes. Pourquoi ils ne trouvent pas la réponse? Pourquoi il faut aller chercher Yosef? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose que les nations du monde ne peuvent pas concevoir. Ça ne fait pas partie de leur construction. C'est que jamais dans les nations du monde, le petit peut manger le gros. Jamais chez les nations du monde, le faible peut avoir une supériorité sur le fort. Ça n'existe pas. Ce qui marche avec la logique, le nombre, c'est celui qui gagne, c'est tout. Tu es plus armé, tu gagnes. Ils croient dans la force, ils croient dans l'épée, ils sont dans le chichloul, c'est-à-dire dans la technologie. Si tu as la technologie, tu as la victoire. Nekuda. C'est-à-dire, si tu as la puissance, c'est toi qui gagnes. Mais que le gros, que le gras soit mangé par le faible, par le maigre, par le petit, inconcevable. Et il arrive un tout petit Yosef. Et il dit à Paro, tu sais, chez nous, pas les juifs, il n'y a pas marqué juif, les hébreux. Nar, ivri, je ne suis pas un juif, je suis un hébreu. Ça change tout. Juif, ça vient de qui? Yehuda. Yehudi. Alors que l'hébreu, c'est qui? Yosef. Encore une fois. Pour l'instant, là-bas, nous sommes quoi? Hébreu. Le Yehuda, il est là-bas après. Il faut savoir faire le lien des deux. C'est-à-dire que le juif, c'est le vêtement Yehuda. Mais qu'est-ce que dit Yehuda Yosef? Bi Adoni. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre juif? Un hébreu. Si je ne retrouve pas l'hébreu qui est en moi, je vais rester juif et je vais rester galouti. exilé. Donc je dois retrouver l'hébreu qui est en moi. Et aujourd'hui, nous devons revenir à l'hébreu. En hébreu, hébreu veut dire celui qui fait passer, l'arabo. Dans le judaïsme, il y a un grand secret. C'est que la qualité est supérieure à la quantité. Même s'il y a quelque chose de petit, une petite flamme. Si vous éteignez toute cette pièce, avec une petite flamme, vous pouvez voir. Me'at or docher bechosh. Un peu de lumière peut repousser beaucoup de noir. Un petit nitsot, une petite étincelle, le midrash de tout à l'heure, peut brûler tout le cash de Esav. Vous vous rappelez ce qui s'est passé entre les deux frères la semaine dernière, Yaakov et Esav, quand ils se rencontrent? Chacun veut un petit peu montrer ce qu'il a fait dans le sens le plus simple. Yaakov veut donner des cadeaux à Esav et Esav lui dit non, yesh li rav achi. J'ai beaucoup, mon frère. Okay. Et après, qu'est-ce qu'il dit à Jacob? Yesh li kol. Moi, j'ai tout. En réalité, c'est pas ça. Et ça dit yesh li rav, yesh li arbe. Et ça dit j'ai la quantité. Jacob lui dit yesh li kol. J'ai le collègue. J'ai celui qui englobe le tout. C'est une discussion, en réalité, de deux manières de voir le monde. Qui va gagner dans ce monde, la quantité ou la qualité? Et là, Yosef nous enseigne que c'est la qualité qui gagne. Hanouka nous montre que c'est la qualité qui gagne, parce que Meratim, très peu, en face d'un empire, et nous avons gagné. Ce n'est pas le nombre, c'est la qualité, c'est notre essence, c'est notre flamme. Et aujourd'hui, chacun de nous est responsable de la retrouver, cette flamme. À chacun de nous, on va demander des comptes. Est-ce que tu as récupéré ta flamme? Ou tu t'es endormi? Par exemple, Yosef, c'est l'enseignement. Et c'est l'enseignement du degré le plus élevé. Je termine vraiment. Il y a une clé dans cette fête. Dans le Alanissim, Vala Pukan, Vala Gvou, Vala Chiwod, Bal Chassit Alavutin, qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce que les Grecs voulaient nous faire? Les Shakkecham, Toratcha, ou les Ha'aviram, Michouke, Retsoncha. Il y a quelque chose qui vous paraît important à dire? Toratcha. Les Grecs ont voulu nous faire oublier ta Torah. Pourquoi il n'y a pas marqué ha Torah, la Torah? Non. Les Grecs ne veulent pas nous faire oublier la Torah. Ils veulent nous faire oublier sa Torah. C'est-à-dire la Torah de l'intériorité. L'âme de la Torah. La flamme intérieure de la Torah. La chassidoute, la Kabbalah. Ça, c'est ce que les Grecs essayent d'éliminer du monde. Pour rester au ras des pâquerettes. Chouker et Sonra, qu'est-ce que c'est les chouker?
Les lois.
Ce sont les lois incompréhensibles. C'est ce qu'ils voulaient annuler. Pas les lois qu'on comprend, les mishpatim. Chouker et Sonra. C'est très précis dans le texte. Moralité. Nous sommes revenus sur notre terre. Hanouka, c'est la terre. C'est la Torah d'Eretz Israël. C'est la Torah du secret. C'est la Torah de l'intériorité. C'est la Torah qui dévoile l'âme de la Torah sur sa terre. Et l'enseignement, c'est qu'il faut commencer à sortir. À sortir dehors. Quand je dis sortir dehors, c'est sortir ce que nous avons à l'intérieur. Notre vrai langage, notre flamme, et commencer à la dire. Chacun de nous, dans le milieu qu'il travaille, dans le degré où il est. C'est-à-dire, il a, ce soir, je ne suis pas en train de donner un cours où vous allez rentrer chez vous gratuit, vous payez. Chacun de nous, maintenant, a l'obligation de sortir ses tripes, mais d'une manière cohérente, belle, pas comme des fous, pas des syndromes de Jérusalem, pas des gens qu'on va enfermer dans des hôpitaux, Chas v'Shalom. Normal. Avec un langage cohérent, mais qui place à l'intérieur le degré du divin dans chaque chose. Va yetze achutza. Achetechle regel minashuk, dit la Gemara concernant Hanouka. On doit allumer Hanouka au niveau des hanches. N'oublie pas que c'est les hanches que l'ange de Esav a frappé chez Yaakov. Quand on dit la hanche, c'est un langage propre pour dire qu'il a frappé là où vous savez. Pour enlever, pour éliminer sa descendance. Aujourd'hui, nous devons éclairer le futur, notre nouvelle génération, les enfants. Ce que l'ange de Esav a voulu blesser, nous devons le corriger. C'est-à-dire que nous devons enseigner à la nouvelle génération cette Torah d'authenticité, la Torah d'Eretz Israël, Torah Ta'am, la Torah du peuple. Voir le peuple avec un bon œil, parler du bien de notre peuple, ne pas le négliger, ne pas cracher sur notre propre peuple, ne pas sans arrêt dire des mauvaises choses sur les uns et les autres. Voir le bien, Aïn Tova, comme les lumières de Hanouka, sont des flammes toutes simples qui deviennent au bout de 5 minutes Kodesh. Vous les avez achetées à la Makolet, et au bout de 5 minutes, vous dites Anerot Alalu Kodeshem, El Amoreshu Kishtameshman, El Alir Otam Ilval. Comment c'est devenu Kodesh? En 5 minutes? Ça, c'est la Sgoula d'Eretz Yisrael. Ne jamais oublier notre flamme intérieure et savoir que cette flamme, elle est tout le temps, dans un petit coin. Il faut juste la retrouver. Comme les Hashmonaïm l'ont retrouvée au Beth Amikdash, elle n'est jamais souillée, elle est toujours scellée par le sceau du Kohen Gadol à Kadosh Baruch Hu.
Comment dire
bien
les gouvernements?
Ce que je viens de vous dire maintenant ne nous rentre pas dans un phénomène de soula. C'est-à-dire que nous devons être capables de voir les faiblesses et les failles et se battre pour les corriger. Je n'ai pas dit que tout était bien. J'ai dit qu'il y avait du bien à l'intérieur de beaucoup de mal, mais qu'il faut le retrouver. Et c'est ça le vrai problème.